Une nouvelle semaine que nous allons partager ensemble à la découverte d'une profession. Cette profession, c'est dentiste, que nous allons découvrir de l'autre côté, dans l'envers du décor, comme nous le faisons traditionnellement dans ce rendez-vous. Et pour cela, nous allons passer la semaine avec Nathalie, dentiste depuis 25 ans. Donc, quand on va chez le dentiste, en général, on y va un peu à reculons. Vous, finalement, vous avez décidé de plonger les deux pieds dans cette profession. D'abord, ce qui vous a tenté, c'était quoi? C'était la médecine d'une manière générale?
Ben, je suis issue, moi, d'une famille de mes parents étaient fonctionnaires. Donc je connaissais pas du tout le milieu médical. Je suis allée chez le dentiste, ben, comme tout le monde. J'ai eu pas de très bonnes dents, donc une première couronne à 15 ans. Et puis ben, l'idée a dû faire son chemin. J'ai fait un bac scientifique, je savais pas trop quoi faire. Vétérinaire me tentait un petit peu, mais bon, ça me paraissait un peu compliqué. Donc je suis partie en première année de médecine. Là j'ai été donc reçue au concours. Et puis là la possibilité s'offrait à moi soit de partir sur des études de dentaire, peut-être un peu plus courtes, ou de continuer médecine. Et puis finalement je me suis dit dentaire, il y a un petit côté pratique, ben j'essaye, mais je savais pas du tout où j'allais, je connaissais pas du tout l'envers du décor non plus, et tout compte fait, ben ça m'a plu, et vraiment là depuis 25 ans, j'ai pas vu passer les années, et c'est très
aucun regret.
Non, du tout, du tout.
C'est combien d'années d'études justement pour, alors il y a dentiste, il y a plusieurs disciplines, etc., mais le parcours de base?
Alors le parcours de base, moi à l'époque, c'était 5 ans, donc on faisait la première année de médecine, et après on allait en école de dentaire, d'odontologie, et là c'était 4 ans. Maintenant c'est passé à 6 ans, donc une année de médecine et 5 ans de dentaire. En fait, en dentaire, il n'y a vraiment qu'une seule vraie spécialité, c'est l'orthodontie, où c'est 4 années de plus, et sinon après, il y a possibilité de faire des spécialités, entre guillemets, d'implantologie, des choses comme ça, mais vraiment, la seule spécialité vraiment reconnue, c'est l'orthodontie.
Alors, orthodontie, ça veut dire quoi, justement? Alors, quelle différence avec le dentiste qui n'a pas cette spécialité?
Voilà. Alors, l'orthodontie, bah, c'est remettre les dents droites, hein, les enfants qui ont les dents, enfin les enfants et les adultes d'ailleurs. Hein. Maintenant, on peut aussi, quand on est dentiste, faire une formation et acquérir la spécialité plus tard, quoi.
Alors, 25 ans pour ce parcours aujourd'hui, c'est un métier qui a beaucoup évolué.
Oui, il y a eu vraiment beaucoup de progrès, surtout dans les traitements d'endodontie, donc c'est quand on traite les racines, là il y a eu vraiment, même dans les matériaux, les prises d'empreintes, enfin, puis ne serait-ce que l'arrivée aussi des implants. Oui, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Maintenant, on peut même travailler seul, il y a beaucoup de produits qui sont prêts à l'emploi, enfin oui, ça, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution.
Ça veut dire on soigne mieux et c'est un plus grand confort de travail.
Je pense qu'on gagne du temps, parce que tous ces produits nous aident à gagner du temps, et puis ben, il y a plus de... Oui, c'est aussi plus de travail, parce qu'il faut se former aussi pour connaître ces produits, mais je pense que c'est une qualité de travail qui est... Enfin, c'est beaucoup plus intéressant, oui.
Alors, quand on dit dentiste, on pense pas moment festif, a priori. L'image que le grand public a du dentiste, c'est encore quelque chose de difficile.
Alors c'est très contradictoire parce que je pense qu'on a une image publique très négative et par contre si on interroge une personne individuelle comme ça, elle va être toujours très contente de son dentiste, ça se passe bien, mais alors à l'échelle globale, bah, tout le monde, les dentistes, voilà, ce sont des brigands, des... un peu comme les garagistes, quoi. On a vraiment une image très négative. Enfin, moi j'aime beaucoup ce côté de contact avec les gens, voir des personnes différentes, bah, il y a des fois on arrive à avoir des échanges, c'est assez intime aussi et oui c'est vraiment très intéressant.
Avec effectivement un aspect très psychologique, on en parlera aussi en cours de semaine, c'est aussi beaucoup de travail. Il y a la technique hein, qui est là parce que vous êtes là pour soigner les dents, mais il y a aussi une grande partie de psychologie, ce rapport humain qui est très important dans le métier.
Ah oui, ça c'est certain, oui, oui. Alors malheureusement aussi, on a ce côté un peu qui nous frustre dans le travail psychologique, c'est qu'on ne peut pas trop communiquer parce que si on veut bosser en même temps, on est obligé d'ouvrir la bouche. Donc, mais je pense qu'il y a une grande partie psychologique. Quoi. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ont peur du dentiste et si on les écoute, c'est dû à vraiment une expérience souvent enfant. Ils ont été traumatisés, mais ça ne passe pas, quoi, ça. Et même ça s'aggrave en vieillissant. Et c'est terrible, ça tient vraiment à une expérience négative. Et...
On va essayer de changer les choses tout au long de cette semaine, alors ensemble.
D'accord, ok.
Et on se retrouvera donc demain pour concrètement parler de toutes les facettes du métier, parce qu'il y a énormément de choses derrière ce terme de dentiste. On voit ça donc demain dans notre prochain rendez-vous. Et c'est notre deuxième rendez-vous cette semaine dans l'univers des dentistes. Nous sommes avec Nathalie, dentiste depuis 25 ans et qui nous permet eh bien de découvrir l'envers du décor, peut-être de désacraliser ce métier qui fait encore peur, on le disait dans notre rendez-vous précédent. On va peut-être évoquer la palette, Nathalie, de tout ce que renferme ce terme de dentiste, avec peut-être d'ailleurs des proportions. Est-ce qu'on est là plus sur du soin, on est plus sur de l'esthétique en ce qui vous concerne, même si on n'a pas forcément des chiffres très précis?
Alors moi, je suis un cabinet vraiment dans la moyenne. Hein. Je suis pas le cabinet high-tech, je propose pas de soins vraiment d'esthétique, un petit peu de blanchiment par-ci par-là, mais enfin voilà, moi mon credo, c'est vraiment de soigner tout le monde et un peu à la demande, quoi, en fait. La tendance actuelle vient beaucoup aussi sur des traitements globaux, c'est-à-dire que vous arrivez dans le cabinet, on passe une radio panoramique et on vous propose de refaire tout à neuf, entre guillemets. Alors ça, c'est vrai que ça part d'un très bon sentiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Malheureusement, des fois, il y a des traitements qu'on peut pas forcément reprendre comme on voudrait et on se retrouve bloqué. Il y a des personnes aussi qui n'aspirent pas du tout à ce genre de traitement, qui sont très stressées, qui préfèrent qu'on fasse juste ce pourquoi ils sont là et pas autre chose. Donc voilà, donc moi mon credo c'est de faire un peu tout, mais c'est vrai que ça c'est quand même assez varié puisqu'on a effectivement, on part du détartrage, on part des contrôles pour les enfants, un petit peu de notion d'hygiène, bon, il y a les caries éventuellement, après remplacer les dents manquantes, alors les couronnes, les bridges, les appareils, on fait encore beaucoup d'appareils amovibles, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des implants, même si effectivement l'implant, c'est ce qui se fait de mieux, et voilà, donc c'est vrai que c'est très varié, c'est ce qui est intéressant aussi, puisque bon, on fait pas la même chose du tout dans la journée, quoi, on passe des personnes et des soins différents, et c'est très intéressant.
Alors, 25 ans d'expérience, ça veut dire comment ça évolue, par exemple, les caries?
Alors, sur les enfants, c'est très très étonnant, parce que c'est vraiment tout ou rien. Soit on va avoir des enfants, effectivement, donc je suppose parce qu'il y a un bon brossage, une bonne alimentation, enfin pas trop de sucreries, et puis bonne qualité de dents aussi peut-être. Et alors d'autres où c'est vraiment la cata, et à partir de 4-5 ans déjà on a plein de soucis. Mais c'est vrai que c'est très... J'ai l'impression que par rapport au début, quand j'ai commencé, c'était plus varié. Là, c'est vraiment assez séparé. Bon, après, chez les adultes, voilà, ça, c'est autre chose. On continue.
Alors, justement, est-ce que c'est à l'image des parents? Est-ce qu'un enfant qui a les dents nickel, en général, a des parents sur le même modèle et donc c'est forcément un problème d'éducation, en tout cas de soins dentaires à la maison?
Alors, il y a les deux. Il y a vraiment une hérédité. C'est vrai qu'il y a une qualité de dents. Si les parents ont de bonnes dents, les deux, les enfants ont de fortes chances d'avoir de bonnes dents. Mais par contre, des parents qui n'ont pas de bonnes dents, s'ils ont une bonne éducation, si les enfants sont vraiment briefés, que le soir, on ne va pas se coucher sans se laver les dents et qu'il n'y ait pas trop de bonbons à la maison, qu'il y ait tout ça, ça peut marcher. Les enfants n'ont pas de caries. Vraiment, on peut avoir des enfants sans caries si ça fonctionne. Mais il y a encore des parents, et ça, j'ai vraiment du mal à comprendre, qui, eux, ont plein de soucis et qui n'arrivent pas, qui continuent à donner des bonbons aux enfants, à dire « oh mais je peux pas les empêcher », alors qu'il y en a par contre qui justement ont tellement souffert de ça, qui au contraire sont très attentifs pour leurs enfants, et ça je trouve que c'est plus logique.
Donc il n'y a pas de fatalité en gros, hein. Si on fait attention, on évite beaucoup de problèmes.
Oui, on limite vraiment les dégâts quand même, ça il n'y a pas de secret, oui.
Alors est-ce que c'est un métier d'urgence aussi? On a l'impression qu'on vient chez le dentiste quand c'est trop tard. Est-ce qu'on attend toujours le dernier moment ou au contraire on a de plus en plus de gens qui viennent en préventif?
Oui, je pense qu'il y a quand même une majorité de cas maintenant où les gens viennent régulièrement, une fois par an. Alors très souvent c'est pour des détartrages, mais ça permet de faire un tour et de vérifier s'il n'y a pas de caries. Mais bon, on a toujours les récalcitrants, les incurables ou là qui viennent toujours au dernier moment, et il y en a encore évidemment, hein, ça c'est...
Et qui appellent en disant il me faut un rendez-vous dans les 10 minutes qui arrivent.
Ouais, à peu près, oui, c'est ça.
Et on essaye de faire ce qu'on peut. Le confort pour vous, c'est effectivement cette régularité de venir une fois par an faire un petit bilan.
Voilà, bien que malgré tout, on peut passer des fois à côté de certaines choses aussi, hein, ou alors une couronne qui va tomber ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai que les vraies urgences, moi, à la limite, je vais dire une couronne qui tombe sur une dent devant, pour moi, c'est presque une vraie urgence. Quand il y a des gens qui viennent, qui ont mal, mais qui ont laissé traîner, et puis bah, qui arrivent au stade où effectivement ils ne peuvent plus supporter, c'est une urgence aussi de douleur, mais c'est de la négligence. Mais on les prend quand même, évidemment.
Les plus assidus, ce sont qui? Les hommes, les femmes, les seniors, les enfants que vous traitez via leurs parents?
Bah c'est souvent, j'ai l'impression, la femme quand même qui dirige un petit peu. Très souvent, les femmes prennent les rendez-vous pour les maris, mais bon... Il n'y a pas de profil type, je pense.
Alors, il y a quelque chose aussi, parce qu'on est dans un univers médical, mais vous avez une particularité, c'est que vous travaillez dans un environnement qui est quand même pas très très grand. Je parlerai moi de microchirurgie pour essayer de schématiser, mais c'est vraiment une des spécificités du métier qui le rend très technique, parfois très complexe.
Alors oui, c'est vrai, parce qu'en fait, souvent les soins, ben, on sait très bien les faire. Si on pouvait enlever les dents, les soigner à côté, les remettre, ça serait parfait.
Moi, c'est ce qu'on fait pendant les études.
Mais oui, parce qu'on commence sur des têtes en métal, après on a des petites maquettes. Après, on va récupérer les dents on va glaner les dents chez les dentistes, on les coule dans des petites maquettes en résine et on remet ça sur la tête, on appelle ça un fantôme, hein, la tête, et on s'exerce là-dessus, effectivement. Et là, tout va bien, quoi. Mais c'est vrai qu'après, le problème, voilà, c'est quand on arrive en bouche où, ben, on a des gens qui vont bouger plus ou moins, qui ont une langue qui est assez volumineuse, souvent on est noyé dans la salive et c'est là que ça se complique parce qu'en fait, les soins, on les maîtrise facilement, mais on est gêné par. Alors, par contre, il y a beaucoup de progrès aussi. Là, il y a Il y a un petit instrument qui est sorti, là, qui se branche sur l'aspiration, qui est censé écarter la joue en même temps, la langue, et puis faire de la lumière. Et je pense que le système va être assez intéressant, parce que c'est vrai que c'est notre gros problème, effectivement.
Vous avez l'impression qu'on n'a pas conscience de la difficulté de la tâche du dentiste ?
Bah évidemment, je vais pleurer, je vais dire « mais oui, on n'est pas compris ». Les gens se rendent pas compte, on a une mauvaise image. Oui, je pense quand même en partie, oui, parce que déjà parce que voilà, il y a ce milieu très étroit, et puis on est aussi, c'est du vivant, je veux dire, on est sur un tissu vivant, donc ben oui, des fois les caries, ben ça repart. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une obligation de moyens et pas de résultats comparé à d'autres professions, ben, comme tout ce qui est médical en fait.
Et beaucoup de technicité, beaucoup de précision également, hein, parce que c'est des choses qui se font souvent au millimètre également.
Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Quand on fait un traitement de racine, voilà, il faut aller au bout. Enfin, c'est très, oui, oui, c'est très précis, oui.
Avec les technologies, on en parlera également dans notre prochaine partie sur le matériel, mais c'est des choses qui ont beaucoup évolué.
Ah oui, tout à fait, puisque pour dévitaliser une dent, avant, on mettait un petit pansement avec de l'arsenic, vous reveniez 50 fois, donc moi je ne l'ai même pas connu, ça c'était encore avant, hein. Vous reveniez plusieurs fois, il fallait des désinfectants, enfin ça mettait un temps pas possible. Maintenant, pour dévitaliser une dent, une anesthésie, en une fois c'est fait, on peut même à la limite refaire l'obturation sur le dessus, en une fois tout est fini, quoi.
Donc pour ceux qui ont encore peur du dentiste, dites-vous que aujourd'hui, ça n'a rien à voir par rapport à il y a quelques années.
Voilà, oui, même les instruments, la turbine, justement, la roulette, dans le temps, ça tournait beaucoup moins vite, ça vibrait aussi plus. Maintenant, ça tourne très très vite, on a l'eau avec qui évite l'échauffement. Enfin oui, ça... Bon, il y a toujours ce bruit, effectivement, qui reste là, parce que malheureusement, ben, le moteur est dans la turbine, donc on peut vraiment rien y faire et... C'est peut-être que notre problème, voilà.
On en parlera demain, puisqu'on va se plonger, dans ce fameux matériel qui est sans doute peut-être le talon d'Achille du dentiste, ce bruit en tout cas. On voit ça demain, le temps de vous préparer psychologiquement. Troisième rendez-vous cette semaine dans l'univers des dentistes avec une dentiste, Nathalie, qui nous accompagne et nous fait découvrir l'envers du décor de cette profession qui est la sienne depuis 25 ans maintenant. Et on va parler de ce qui peut-être est le plus compliqué à faire passer dans l'état d'esprit, c'est le matériel du dentiste. C'est lui évidemment qui fait naître ses craintes avec ce bruit, on en parlera également dans quelques instants. Un mot déjà, Nathalie, globalement, voilà, de présentation sur ce matériel qui nous entoure, puisque là on est installé au cœur du cabinet.
Donc le matériel, ben, ça se compose déjà du fauteuil. Alors nous, on appelle ça l'unite, en fait. Donc le fauteuil où tous les instruments, ben, vous les avez sous le nez, hein, quand vous venez là. Donc il y a le crachoir. D'ailleurs, de plus en plus, on fait des fauteuils sans crachoir. Ça vient des États-Unis parce que il y en a beaucoup qui disent que c'est pas hygiénique. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de personnes qui aiment bien se rincer et je pense que ça fait un petit côté de diversion. L'idée d'aller dans le crachoir, ben, on échappe un petit peu au dentiste.
C'est la pause.
Voilà, on est bien content d'aller de l'autre côté.
Après, et comment on fait sans crachoir, alors, du coup?
Tout se fait avec l'aspiration. Donc, c'est nous qui rinçons, on met l'eau dans la bouche, on aspire et c'est, en fait, le dentiste fait le rinçage en bouche. Ensuite, après, pour faire fonctionner tout ça, ben, on a dans une petite pièce à côté le compresseur, le système d'aspiration. Et puis, bon, ben après, il faut, voilà, le stérilisateur pour les instruments, ben la radio, l'ordinateur, évidemment, avec le logiciel. Maintenant, on peut plus s'en passer. Voilà, donc il y a plein de petites choses.
Alors, ce qui évidemment est le plus en mémoire de ceux qui nous écoutent, ce sont les fameux instruments, on pense à la roulette, donc ce sont là les 5 instruments qui sont sous notre nez.
Il y en a plus même, hein. Bon, il y a la turbine, ce qu'on appelle vraiment la roulette, et après on a des pièces à main, donc ça c'est des qui tournent un petit peu moins vite. Alors il y a plusieurs vitesses selon ce qu'on fait, il y a vraiment des instruments tout à fait différents, suivant quoi. Pour traiter pour aller à l'intérieur des racines, maintenant on a beaucoup, on appelle ça des contre-angles aussi, on a des moteurs qui sont séparés, qui sont à part, avec une localisation d'apex, donc l'apex c'est le bout de la racine où on peut faire tout ça. Voilà, alors il y en a qui se mettent encore sur le fauteuil, mais il y en a d'autres à part. Enfin, il y a l'ultrason aussi pour faire les détartrages. Et puis bon, à côté, moi j'ai pas ça, mais il y a aussi des lasers, des gens qui travaillent avec des lasers. Enfin, il y a possibilité vraiment, si on veut, d'avoir tout un arsenal à notre disposition. Et après, il faut faire des choix aussi en fonction du coût de revient. Voilà, toujours.
Le confort c'est quand même bien amélioré. Alors il y a le côté aussi jetable, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses que l'on jette. On a parlé par exemple des petits gobelets en plastique, il y a beaucoup de matériel comme ça à usage unique.
Alors oui, il y a beaucoup d'usages uniques. Moi, quand j'ai commencé, la dentiste à qui j'ai racheté le cabinet avait des verres en verre. Donc évidemment, après, on est passé au gobelet. Et bon, alors on a des embouts qui sont jetables, évidemment. Mais c'est pareil, actuellement, on est dans une tendance aussi pollution. Et Et plus on a d'instruments jetables, plus ça pollue aussi. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi de garder des plateaux avec des miroirs, des sondes non jetables et qu'on stérilise, parce que sinon ça nous fait des déchets énormes, quoi. Donc on a toujours les pompes à salive, évidemment, les gobelets jetables. Et aussi, on a aussi beaucoup d'instruments, notamment pour traiter les racines, qu'on ne doit utiliser qu'un certain nombre de fois, puisque sinon après ils risquent de se casser. Donc on utilise 10 fois, on jette, donc c'est du semi-jetable. Donc voilà, après le jetable, c'est vrai que c'est délicat, quoi. On a cette notion hygiène où effectivement on se dit du jetable une seule fois et hop, on n'en parle plus, mais c'est plus polluant. Alors est-ce qu'on peut pas, voilà, faut trouver
un juste milieu.
C'est un coût, tout cela, et c'est vrai qu'on a tendance, on a parlé des garagistes et des dentistes qui ont cette image peut-être de vouloir faire payer très cher des soins. Ce prix-là, qui effectivement est élevé, il s'explique par notamment toute cette technicité, tout ce matériel-là.
Oui, voilà, ça revient très cher, hein. Là, si on calcule, voilà, tout un fauteuil, c'est voilà 34 000 euros, chaque instrument qui va dessus, c'est à peu près 900 euros, un stérilisateur, ça peut aller de 6 000 à 9 000, une radio 3 500, le capteur, rien que le petit capteur qu'on met dans la bouche, qui est relié évidemment à l'informatique, au logiciel, ça va aller dans les 4 000 euros. Bon, l'aspiration, le compresseur, c'est à peu près 2 000 à 3 000 aussi. Donc on arrive vite à un total, quand on s'installe, d'investissement qui est sans compter le petit matériel, hein. Donc on est dans les 60 000 euros, on peut aller et encore, ça, c'est voilà vraiment le minimum.
Ceci expliquant donc cela. Et puis, on parle, il y a des nouveautés aussi, c'est des devis.
Alors voilà, depuis quelques temps, on nous a obligés à faire un devis conventionnel. Alors ça, vraiment, on a tous trouvé ça extraordinaire, où il fallait que le prix de revient de la prothèse qu'on faisait apparaisse sur le devis. Comme si on allait demander à un maçon de mettre le prix qui payait ses parpaings sur son devis. Et en plus, alors donc on l'a fait évidemment, cela dit, la plupart des personnes s'en fichent complètement, d'ailleurs n'y comprennent rien. Et donc on a dit, le prix de la prothèse, ça ne signifie rien, quoi. Donc on a essayé de calculer plutôt le coût horaire du cabinet, donc en fonction, ben voilà, de l'électricité, du coût de tout ce matériel, pour être plus logique. Parce que si vous prenez évidemment juste le prix d'une couronne et le prix qu'on la facture, c'est sûr que c'est pas logique.
Alors on va quitter le côté financier pour parler technicité aussi. Je l'ai dit, il y a la radio notamment qui a fait son arrivée dans les cabinets. Ça, c'est une technicité accrue, c'est des formations, c'est une qualification supplémentaire par rapport au moment où vous avez commencé.
Alors la radio existait quand même avant, hein, mais c'était de la radio argentique, c'est-à-dire qu'on avait nos petits films qu'on mettait dans la bouche. Après, il fallait aller les faire tremper, donc soit on avait le bac, le révélateur, enfin exactement comme les photos. Alors ça prenait un temps fou. Et c'est vrai que l'arrivée des radios numériques, bah ça change la vie, quoi, parce que là, vous mettez le capteur, tac, vous avez le résultat tout de suite à l'écran. Donc c'est un vrai bonheur, et vraiment ça a changé la vie, ça. Par contre, alors là, depuis quelques temps aussi, ils nous assimilent à des centrales nucléaires. C'est pas possible, on a des obligations de fou, on est obligé de faire des contrôles, d'avoir normalement une personne compétente en radioprotection qui vient au cabinet, qui est là avec son petit compteur pour mesurer les millisieverts. Donc il met un petit récipient d'eau à la place sur la tétière pour représenter la tête du patient, et puis qui, avec son petit compteur GGR, qui mesure quand on prend une radio les rayonnements. Donc c'est vraiment dérisoire, mais on a des obligations de se former là-dessus aussi régulièrement, et ça fait partie, voilà, on en reparlera, je pense.
Joyeuseté française, on en parlera en fin de semaine, effectivement. Un mot pour terminer ce rendez-vous sur le talon d'Achille du dentiste, c'est le bruit. C'est vraiment ce qui pose le plus problème pour vous, l'angoisse du dentiste. Elle naît peut-être avant tout de ces bruits-là.
Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées aussi avec le bruit, qui nous disent, même dans la salle d'attente, quand ils entendent tourner, ils commencent à... Mais bon, ça, comme je vous disais, on n'y peut rien. Alors moi, des fois, je leur propose de mettre ceux qui sont vraiment très stressés, d'arriver avec un casque et puis de la musique pour se détendre un peu. Mais bon, malheureusement, on l'entend quand même à côté, hein.
Et là, il y a peu d'évolution à attendre de ce côté-là.
Bah oui, on nous avait parlé des techniques ou le laser, mais ça fait pas tout encore, hein. Alors je sais pas, ouais, non, je pense pas que ce soit pour sitôt, si ce n'est vraiment arriver à ce que les gens n'aient plus du tout de caries. Et...
Mieux vous brossez les dents, moins vous entendrez le bruit de la roulette.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Notre quatrième et avant-dernier rendez-vous cette semaine dans la découverte de cet univers et de cette profession de dentiste que nous partageons avec Nathalie, qui est donc dentiste depuis 25 ans et qui nous accueille dans son cabinet. On va parler de l'hygiène, les règles d'hygiène qui vous incombent dans l'univers du cabinet. C'est des choses qui sont très réglementées, très strictes, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur.
Mais réglementer, oui et non, parce qu'on peut avoir des contrôles. Bon, il n'y en a pas beaucoup, des contrôles pour vérifier qu'on n'ait pas de produits périmés, qu'on ait bien un stérilisateur, un autoclave. Mais bon, voilà, on ne les voit pas vraiment. Après, les règles d'hygiène, c'est nous qui nous les imposons, évidemment, puisque, par exemple, on peut avoir une personne qui va avoir un sida, mais qui n'est pas censée déjà le savoir, qui ne va peut-être pas nous le dire. Et donc, dans le doute, il faut qu'on soit sûr de ne pas pouvoir recontaminer d'autres personnes. Donc, il faut que l'hygiène, elle soit irréprochable, quelle que soit la personne, en fait. Donc en fait, l'hygiène, c'est-à-dire que quand on a utilisé les instruments, on les met dans un premier temps dans un bac à décontamination, qui pour moi est l'étape la plus importante. Après, les instruments sont renettoyés donc par l'assistante. Moi, pour la chirurgie, pour les traitements dans les racines, on met dans des petits sachets et on passe au stérilisateur. Et puis après, évidemment, il y a la désinfection des surfaces, les turbines aussi, toutes les pièces à main, les contre-rangs peuvent être passées aussi au stérilisateur.
Donc ça, c'est beaucoup de travail. Ça veut dire que ça se fait entre chaque patient.
Entre chaque patient, voilà. Bah, évidemment, des infecte tout ce qu'on a utilisé, les instruments trempent, et après nous, bah, deux fois par jour, à midi, l'assistante voilà, prend le bac à décontamination et puis va dans la stalle de stérilisation, enfin la pièce à côté pour nettoyer et puis faire une stérilisation. Et puis ça, bah, c'est en fonction de ce qui reste comme plateau pour la journée, on ajuste les stérilisations à ce qui me reste comme instrument, quoi, en fait.
Alors ça veut dire qu'il y a ensuite des déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'ils soient traités par des entreprises spécialisées?
Alors voilà, oui, depuis quelques temps, on a cette obligation aussi, où on a d'autres déchets, on a des bacs et puis ils viennent nous récupérer ça. Après, il y a les déchets aussi d'amalgame. Là, bon, maintenant, on l'utilise de moins en moins, ce qu'on appelait le plombage avant. Et ça, c'est comme il y a du mercure à l'intérieur, ben, on a des récupérateurs d'amalgame et pareil, on vient nous récupérer ça régulièrement.
Alors, je me fais arracher des dents également chez le dentiste. Que fait-on de ces dents arrachées? Où partent-elles? En général, le patient ne repart pas avec dans la poche. Donc, qu'est-ce que vous en faites?
Alors, si, les enfants, on les leur donne pour la souris.
Ah, évidemment.
Donc, moi, je propose régulièrement aux adultes aussi, s'ils veulent tenter la souris, je peux leur donner leurs dents. Il y en a qui veulent les garder pour les montrer, voilà. Bon, sinon, la plupart du temps, ça passe à la poubelle, enfin voilà, dans le tri avec les déchets. Maintenant, nous, on arrive à en garder pour nous, perso, quand on fait des TP, quand on a des formations sur des travaux pratiques, bah, il faut qu'on parte en arrive avec nos dents et pour essayer du nouveau matériel. Et puis, bon, alors, moi, ici, j'en vois pas beaucoup, mais sur Limoges, je pense qu'ils ont aussi beaucoup d'étudiants qui recherchent des dents pour apprendre.
Hein. Parce que rien de tel que de la vraie dent pour le travail d'un étudiant?
Bah, c'est surtout parce que chaque dent est différente. Hein. Alors pour faire le dessus d'une dent, ben là on avait des dents en résine et puis une dent c'est pareil, elle est tout le temps faite pareil. Mais c'est surtout les racines, aucune racine n'est pareille. Il y a des fois un canal supplémentaire et la forme n'est pas la même. Donc ben voilà, les vraies dents, effectivement rien ne vaut les vraies dents pour apprendre, c'est certain.
Donc voilà, sachez que vos dents arrachées peut-être serviront à faire progresser en tout cas les futurs dentistes. On va parler maintenant de l'assistante et je le mets au féminin parce que j'ai l'impression que on ne voit que des femmes dans le rôle de l'assistante. C'est votre sentiment aussi?
Ben oui, c'est vrai que je ne connais pas d'hommes hein, dans la région, non, je sais pas. Autant au niveau des infirmiers, c'est vrai maintenant, avant il y avait beaucoup de femmes et il y a de plus en plus d'hommes, j'ai l'impression, mais là, oui, ça reste très...
On a des sages-femmes hommes, alors bientôt voilà, des assistants dentaires.
Il n'y a pas de raison, oui, mais c'est vrai que je n'en connais pas, oui.
Alors concrètement, quelle est la différence entre l'assistant et le dentiste? C'est un parcours de formation différent. Quand on arrive ici, par exemple, j'ai découvert qu'on arrivait sans diplôme d'assistant dentaire.
Mais oui, effectivement, ouais. Les assistantes souvent sont embauchées par le dentiste, après elles se forment après, ça fait un petit peu comme une formation en alternance en fait, elles sont au cabinet et en même temps elles vont se faire former. Alors c'est des dentistes sur Limoges qui s'occupent de faire la formation des assistantes, parce que maintenant les assistantes font beaucoup de secrétariat avec toutes le tiers payant, enfin toutes ces choses là il y a beaucoup de paperasse, les devis, enfin faut apprendre tout ce côté là avant les assistantes nous aidaient beaucoup au fauteuil, notamment pour préparer quand on faisait des empreintes, la pâte empreinte. Mais là, comme on a de plus en plus de matériel prêt à l'emploi, on a des appareils qui nous mélangent la pâte, on n'a qu'à mettre le porte-empreinte dessous, ça arrive dedans, on a des pistolets mélangeurs, donc limite on a moins besoin de l'assistante, peut-être plus encore pour nous aider à l'aspiration, au fauteuil, ou à tenir la langue, la joue, voilà, là c'est effectivement intéressant, mais si on doit avoir qu'une assistante, comme moi c'est mon cas, elle passe beaucoup plus de temps au bureau à aller expliquer les devis, à répondre au téléphone, à donner les rendez-vous, et de moins en moins un fauteuil, hein, c'est vrai.
Et puis il y a un autre travail aussi qui se fait entre les clients, c'est de travailler avec les fournisseurs, les prothésistes également.
Voilà, alors évidemment le prothésiste, ça c'est l'indispensable, hein, parce qu'on ne peut pas travailler sans, on ne peut pas faire notre prothèse, on n'a pas le temps, donc là eux, c'est une obligation. Et puis après, les fournisseurs, moi j'ai beaucoup de confrères qui n'achètent que sur des catalogues et qui ne voient personne. Moi je trouve que c'est pas mal de recevoir les labos parce qu'ils nous montrent les nouveautés, hein. Il y a toujours des choses, après on le prend pas. Moi j'aime bien faire travailler aussi les fournisseurs qui sont dans la région, puisqu'ils nous fournissent aussi au niveau du fauteuil, du gros matériel, donc c'est toujours intéressant de se dire, ben voilà, ils nous dépannent quand on a un problème, donc on les fait travailler aussi pour le petit matériel, voilà.
Et puis on va terminer ce rendez-vous avec les conditions de travail du dentiste, parce qu'on l'a dit, on est dans un endroit très étroit, hein, qui est la bouche. Ça veut dire que c'est quoi les conséquences pour vous? C'est mal aux yeux, mal au dos, on a du mal à se positionner?
Bon, les yeux, moi ça va encore. C'est vrai qu'on a des petits systèmes qui sont très bien, avec des petites loupes, une petite lumière, et c'est super. Moi j'ai vu ça en travaux pratiques, c'est impeccable, ça donne envie. Le problème, c'est qu'on est tellement bien, mais quand on sort de la bouche et qu'on arrive avec les loupes à côté, on a le changement de vision, ben, ça tourne un petit peu la tête. La lumière, c'est pareil, il faut pas qu'il y ait trop d'écart, sinon là on fatigue beaucoup plus. Donc pour le moment, j'y suis pas encore passé. Et alors après, le mal de dos, ben là c'est sûr qu'on est obligatoirement des moments en train de se contorsionner pour mieux voir. Et
ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé sur le confort du patient et on pense pas encore forcément à travailler sur le confort du dentiste.
Si, ils ont sorti des sièges là d'ailleurs, j'ai des confrères qui en ont et je voulais passer voir certains pour essayer, parce que c'est des espèces de selles en fait, et il paraît que c'est pas mal et ça oblige à se tenir droit, un peu comme certains sièges de bureau qu'on voit où on a les pieds un peu en arrière là. Et puis bon, après c'est à nous aussi de nous tenir, on peut arriver à se tenir correctement, mais c'est nous qui choisissons la facilité souvent en se penchant un petit peu, et voilà, au détriment de notre dos. Mais bon, ben voilà, on fait avec. Moi je fais de la natation pour essayer de tenir le coup, et puis ça va pour le moment.
Et nous voici arrivés au terme de cette semaine de découverte de l'univers des dentistes. Nous sommes toujours et pour quelques minutes encore en compagnie de Nathalie, qui est dentiste depuis 25 ans. Simplement pour commencer, on a beaucoup parlé de technicité, d'un métier de précision qui a beaucoup évolué. Mais il y a aussi cet aspect très psychologique. Nathalie, la psychologie dans votre métier, c'est quelque chose qui prend une part très importante dans la relation notamment que vous avez avec les patients.
Oui, c'est vrai, il y a des patients qui arrivent qui sont vraiment traumatisés parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience et ça les suit toute leur vie, et je pense qu'il y a une grande partie où il faut arriver à les rassurer. Alors il y a des gens évidemment qui viennent qui n'ont aucun souci, mais je pense que la communication, voilà, c'est vraiment important d'arriver à prendre du temps, à les écouter surtout, et puis voilà, oui, mais c'est vrai que c'est important, oui.
Alors c'est cette peur du dentiste chez les enfants, elle vient d'où? On a encore la menace de dire, attention, s'il y a des passages, on va aller chez le dentiste mercredi après-midi?
Ça se dit encore un peu, les parents le disent en rigolant, mais par contre je pense qu'il y a des parents très stressés qui se rendent peut-être pas compte, mais qui arrivent à transmettre leur stress aux enfants, ne serait-ce qu'en étant trop sur eux et en leur disant justement, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais à trop dire ça, je pense que l'enfant se dit, mais pourquoi il me dit ça? Parce que s'il n'y a pas de problème, il doit pas me dire ça.
Alors vous avez des techniques ici pour détendre les enfants et les grands-enfants?
Oui, j'ai trouvé une petite combine, c'est une petite balle anti-stress, et c'est vrai que les gens aiment bien, et ils tripotent ça, et puis voilà, je me dis, ça évite qu'ils s'agrippent au fauteuil ou à mon genou en plus, donc c'est parfait.
On va pas changer 10 fois de rotule, donc c'est
voilà,
bon.
Voilà, c'est très bien, ils aiment bien. Donc. Puis surtout, ils repartent de toute façon, quoi qu'ils soient passés, quand c'est fini, ils sont déjà soulagés, donc
ils partent plus vite qu'ils ne sont arrivés.
Voilà, tout à fait, oui.
Et puis on l'a dit, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Pour vous, pas forcément dans le bon sens, on a l'impression qu'on a de plus en plus de contraintes. Alors ça concerne beaucoup de métiers, mais le métier de dentiste notamment.
Ah oui, mais ça je pense qu'effectivement on n'est vraiment pas les seuls, parce qu'avec qui que ce soit que vous parliez, on est vraiment accablé de contraintes en tout genre. Donc comme je disais tout à l'heure pour la radio, on a aussi eu un changement de nomenclature. Bon, ça c'est vraiment interne à la profession, et finalement ça a été sûrement une simplification au final. Après on a l'accessibilité handicapée, là depuis quelques temps il a fallu se mettre aux normes là-dessus. On avait tous les risques, bon il y a l'élimination des déchets, mais enfin on est en ce moment noyé dans la paperasse, on va dire. Et alors là, la cerise sur le gâteau, c'est ce tiers payant qu'ils veulent nous faire instaurer, et ben nous on freine la plupart tous des cas de fer, parce que ça nous intéresse pas du tout. Ça obligerait presque à embaucher une personne supplémentaire pour gérer ça, quand on voit là déjà c'est ce qu'on fait avec les personnes qui ont la CMU, et il faut tout le temps être derrière, toujours vérifier que ce soit bien réglé. On voit bien les pharmaciens qui s'en sortent pas avec le tiers payant, donc on veut surtout pas de ça, d'autant plus que le tiers payant quelque part on le fait, puisque on attend systématiquement, on propose d'attendre pour endosser les chèques, de façon à ce que les personnes soient remboursées. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et non, on a l'impression qu'on passe moins de temps à travailler, on est sans arrêt pris dans toutes ces contraintes, toutes ces obligations. Évidemment, ça c'est un peu aussi les normes européennes et tout ça, hein, voilà.
On va peut-être terminer cette semaine que nous avons passée ensemble, et bien avec des petits conseils très pratiques. Le petit conseil, c'est combien de passages, la régularité de la visite chez le dentiste, ce serait quoi dans l'idéal?
On conseille une fois par an, mais après c'est pareil, vous avez des gens qui ont beaucoup de tartre, où il faut le faire plus souvent, et Mais voilà, en général, on conseille une fois par an, oui.
C'est déjà plutôt pas mal. On n'a pas parlé, par exemple, de la brosse à dents électrique.
Ben, moi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, on conseille un brossage manuel 3 minutes, une brosse à dents électrique, c'est 2. Donc, ça veut dire que déjà, à temps égal, ben, c'est plus efficace. Par contre, c'est vrai qu'il y a les brosses à dents à piles. Alors, elles sont sympas pour les enfants, parce qu'il y a des Spider-Man, des tas de... Mais bon, ça brosse pas terrible quand même. En plus, on est tout le temps en train de changer les piles. Donc, c'est vrai que les mieux, c'est celles qui sont sur secteur à recharger. Après, il y a des gens qui aiment pas. Et ben ça, je sais pas pourquoi. Je pensais les vibrations. Et ben bon, l'important c'est vraiment de bien se laver les dents. Moi, c'est ce que je dis, c'est voilà, le matin, le soir, ce que je dis aux enfants, le soir, pas question d'aller au lit sans se laver les dents. Et voilà, il faut que ça devienne vraiment un rituel. Je pense que c'est vraiment important de d'inculquer ça aux enfants tout petits. Après, ça devient vraiment, ils se rendent même pas compte quoi. C'est comme prendre la douche quoi. Ils se lavent les dents et puis voilà, faut que ça devienne vraiment un rituel. Et sinon, on a la Sécu aussi qui a instauré des bilans bucco-dentaires, et ça, c'est pas mal, tous les 3 ans. Alors moi, je leur conseille quand même de venir une fois par an, mais c'est vrai que ça incite quand même les gens à venir, et c'est vraiment ça a été une bonne chose. Après, il y a plein de petits accessoires, vous avez les petites brossettes interdentaires, le jet dentaire, l'hydropulseur, qui est très bien, qui fait un bon complément. C'est vraiment important, quoi, l'hygiène. C'est sûr que si vraiment on a une bonne hygiène, on arrive vraiment à diminuer beaucoup le risque de caries et tous les problèmes de déchaussement, de choses comme ça.
Et on a les dentifrices aussi, on a l'impression qu'on a une gamme avec des produits miraculeux qui presque nous éviteront d'aller chez le dentiste. Pour vous, ça reste du marketing avant tout ?
Un petit peu, je dis l'important c'est de se laver les dents, c'est vrai. Après, il y a des dentifrices qui sont quand même efficaces. Vous avez des dentifrices pour dents sensibles qui fonctionnent quand même bien, les dentifrices pour gencives aussi, certains, des gens qui ont des gencives qui saignent, c'est vrai qu'il y a des dentifrices qui marchent bien pour ça. Hein. Mais bon, dans l'idée, si tout le monde se brossait bien les dents, même avec un dentifrice du commerce, déjà, ça serait déjà une très bonne chose.
Oui, ça veut dire que les petits conseils, c'est ici aussi qu'on les obtient en fonction de ses gencives, de sa sensibilité dentaire. Vous serez, vous, amené à donner les bons conseils pour le bon achat de dentifrice aussi.
Oui, voilà, tout à fait, oui.
Et puis, bon, on va terminer ce rendez-vous avec peut-être le mot de la fin, en forme de conseil peut-être même dans cet univers du dentiste.
Le conseil, voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'hygiène. En fait, pour faire une carie, il y a 3 choses. Vous avez le terrain, la qualité de vos dents, après l'hygiène et l'alimentation. C'est vrai que ceux qui ont de bonnes dents, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Et pour les autres, il faut compenser. Puisqu'on ne peut pas agir sur la qualité des dents, si ce n'est avec le dentifrice au fluor pour reminéraliser, il faut vraiment avoir une bonne hygiène. Ça, vraiment, il n'y a pas. Hein. Si vous lavez vraiment bien vos dents, vous limitez quand même beaucoup les dégâts, que ce soit sur la carie ou sur les déchaussements. Et puis après, l'alimentation, oui, éviter trop de sucreries, de choses comme ça, et surtout pas après le brossage, quoi, une fois les dents brossées. Et les boissons sucrées aussi, c'est chez les ados, on a beaucoup de dégâts dus à ça, les coca, les choses comme ça. C'est non seulement il y a le sucre, l'acidité et les bulles, que c'est liquide, ça passe partout. On a beaucoup de caries interdentaires qui sont liées aux boissons comme ça, sucrées. Donc, hygiène.
Prends soin de ses dents et ça évitera de venir vous voir 10 fois dans l'année. Juste un petit coucou une fois par an et ce sera parfait.
Voilà, c'est ça.